L'histoire, on a souvent l'impression que c'est pour le grand public en tout cas, une science d'une précision chirurgicale.
Oui, tout à fait.
C'est presque comme de la médecine en fait. On passe le passé à la radiographie, le rayon X montre une ligne blanche bien nette sur l'os, et là on peut dire, ben voilà, la fracture est ici.
C'est exactement ça qui s'est passé à telle date.
C'est ça, c'est binaire, c'est rassurant. Et notre esprit moderne, il adore quand le passé est parfaitement lisible.
Ça nous rassure énormément, oui.
Sauf que, aujourd'hui, dans notre plongée au cœur des sources, et on a un mélange assez hétéroclite sous les yeux, des analyses historiques, des études symboliques, et même des textes de psychologie clinique, eh bien ça nous emmène face à une énigme où la machine à rayon X tombe tout simplement en panne.
Ah oui, là, l'image nette, on l'oublie complètement.
Complètement. On va explorer un mystère ancien, silencieux et profondément humain. La figure de la Vierge Noire, donc Marie, la mère de Jésus, mais vénérée sous des traits très sombres.
Et c'est un sujet fascinant.
Notre mission aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre pourquoi cette figure bouscule absolument toutes nos perceptions habituelles du sacré, que ce soit dans l'histoire de l'art ou jusqu'à notre propre rapport à l'obscurité.
C'est un point de départ fantastique, je trouve, car le simple fait de se retrouver physiquement face à l'une de ces statues, ça change littéralement l'atmosphère d'une pièce.
Vous avez déjà ressenti ça ?
Oh oui, plusieurs fois. Ce n'est pas juste un artefact religieux classique. Il y a une densité, un regard profond qui installe immédiatement un climat d'introspection en fait.
D'accord.
On quitte la certitude historique pour entrer dans ce qu'on pourrait appeler des eaux troubles. C'est là où la raison pure montre vraiment ses limites.
Alors posons le décor pour bien comprendre de quoi on parle avec notre audience. Les documents qu'on a rassemblés dressent une carte de l'Europe qui est en fait constellée de ses présences énigmatiques.
Surtout en Europe occidentale, oui.
Voilà. Et on les retrouve dans des sanctuaires qui sont des poids lourds de la foi et du pèlerinage. Je pense à Notre-Dame du Puy-en-Velay, par exemple.
Absolument, incontournable.
Ou la Vierge de Rocamadour, vous savez, agrippée à sa falaise. Ou encore le fameux monastère de Montserrat, en Espagne.
Qui attire toujours autant de monde, d'ailleurs.
Des foules immenses, depuis des siècles. Et nos sources s'accordent sur un point précis. La grande majorité de ces statues datent du Moyen-Âge, particulièrement des 11e et 12e siècles.
D'or des pèlerinages, en somme.
C'est ça. Mais la question centrale, celle qui rend fous les chercheurs depuis des générations, ça reste la même. Pourquoi sont-elles noires ?
La grande question.
Bon, décortiquons tout ça. L'explication la plus immédiate, celle qu'on retrouve dans les premiers chapitres de nos notes, elle est purement matérielle.
L'hypothèse pragmatique par excellence.
Voilà. C'est le temps, l'oxydation, la fumée.
L'effet direct de l'environnement sur le bois.
On a tous en tête cette image d'une vieille armoire en chêne chez nos grands-parents, ou d'une poutre au-dessus d'une cheminée dans une maison de campagne.
Oui, qui s'assombrit avec les années.
C'était peut-être du bois clair au tout début, mais après des décennies à absorber la fumée, la suie, et avec le vieillissement naturel du bois, ça devient littéralement noir charbon.
C'est très vrai.
Donc, quand on imagine ces statues enfermées dans des cryptes toutes petites, mal ventilées, entourées par la fumée incessante de milliers de cierges, parce que ça brûle en permanence, et ça pendant 700 ou 800 ans.
C'est sûr que ça laisse des traces.
Bah oui, on a presque envie de refermer le dossier. L'affaire semble classée, c'est juste un accident d'entretien, quoi.
C'est une explication qui est hyper tentante parce qu'elle ferme la porte au doute. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, elle soulève une contradiction majeure quand on connaît un peu le fonctionnement des sanctuaires médiévaux.
Ah bon ? Comment ça ?
Eh bien, il faut comprendre comment l'Église gérait son patrimoine à l'époque. Ces statues, ce n'étaient pas de simples objets décoratifs qu'on abandonnait dans un coin sombre.
Elles étaient importantes.
Elles étaient le cœur battant de l'économie locale. Elles attiraient les pèlerins, et donc les donations. Elles étaient habillées avec des robes précieuses, elles étaient couronnées.
Elles étaient chouchoutées, en quelque sorte.
Totalement. Elles étaient nettoyées et restaurées très régulièrement. Donc, si une statue de la Vierge Marie, qui est censée représenter la pureté lumineuse dans la théologie classique, commençait à noircir bêtement à cause de la suie...
Ah, je vois où vous voulez en venir.
Le clergé l'aurait tout simplement nettoyée. Ou alors, il l'aurait repeinte avec des pigments clairs.
Attendez, vous voulez dire que... S'ils l'ont laissé noir avec tout l'argent et le soin qu'ils y mettaient, c'est qu'il y avait une volonté derrière.
Exactement. Le fait qu'elle soit restée noire détruit la théorie du simple accident de parcours. Et d'ailleurs, dans de nombreux cas mentionnés dans nos sources, les analyses chimiques récentes prouvent qu'elles ont été délibérément peintes en noir dès le premier jour.
Avec des pigments spécifiques, donc ?
Oui, avec des pigments noirs appliqués volontairement sur le bois clair. L'explication météorologique, la fumée, c'est un voile très pratique. Mais quand on soulève ce voile, on découvre que cette couleur sombre, c'est un choix.
Un choix esthétique et théologique.
profondément ancrée, oui. Et ça cache une mémoire humaine beaucoup, beaucoup plus lointaine que le Moyen-Âge chrétien.
Et c'est là que notre exploration prend une tournure vraiment inattendue. Parce que si on élimine la thèse du mauvais entretien de la statue et qu'on admet que ce noir est intentionnel, eh bien, nos textes font un saut vertigineux dans le passé.
Un très grand saut, oui.
On parle de bien avant l'an zéro. Nos sources nous détaillent les civilisations antiques de la Méditerranée et leurs grandes figures féminines.
Les déesses primordiales.
Voilà, Isis en Égypte, Déméter en Grèce, Cybèle en Anatolie. Des déesses qui sont toutes intimement liées à la terre, aux cycles agricoles, à la naissance et à la mort aussi.
Ce sont les grandes figures de ce qu'on appelle la terre-mère. Et quel est le point commun de toutes ces divinités, à votre avis?
Je dirais leur lien avec la nature.
Oui. Leur lien viscéral avec le sol nourricier. Pensez-y, le limon du Nil qui rend l'agriculture possible en Égypte après les crues gigantesques, il est de quelle couleur?
Il est noir.
Ah oui, c'est vrai.
La terre riche, pleine d'humus, dans laquelle le paysan plante la graine pour assurer la survie de tout son village pendant l'hiver difficile, elle est noire aussi. Le noir, ce n'est pas la fin, c'est le début en fait.
Exactement. L'obscurité, dans l'esprit antique, c'est la matrice même de la vie.
J'essaie de visualiser comment on passe d'Isis, en Égypte, à la Vierge Marie, dans le centre de la France. C'est une forme de recyclage culturel.
On peut voir ça comme ça, oui.
Est-ce qu'il faut imaginer l'Église naissante comme un architecte, vous savez, qui trouve les ruines d'un vieux temple païen majestueux, qui regarde ça et qui se dit « Ah tiens, les fondations sont excellentes, je vais construire ma nouvelle cathédrale exactement au même endroit. »
C'est une très belle image.
Mais comment ça se passe concrètement sur le terrain? On ne change pas les croyances d'un paysan du 5e siècle juste en publiant un décret à Rome.
Non, bien sûr. Le mécanisme de cette transition, il est fascinant. Et d'ailleurs, nos sources documentent très bien cette étude des syncrétismes religieux.
Le syncrétisme, c'est le mélange des croyances, c'est ça?
Tout à fait. Et il ne s'agit pas juste d'un recyclage opportuniste. C'était une nécessité vitale de survie religieuse. Imaginez un peu les populations rurales de l'Europe ancienne.
Des gens dont la vie dépendait de la météo.
Entièrement. Leur survie dépendait des récoltes. Donc, leur prière allait naturellement vers la déesse de la terre, qu'ils vénéraient près d'une source spécifique, dans une grotte précise, ou même au pied d'un grand arbre sacré.
D'accord.
Quand le christianisme est arrivé pour évangéliser ces campagnes profondes, il s'est heurté à un mur de briques. On ne peut pas arracher brutalement à un peuple la divinité qui est censée, dans leur esprit, faire pousser leur blé.
Sinon, c'est la panique totale face à la peur de la famine, j'imagine.
Parfaitement. Le risque de soulèvement était énorme. Et d'ailleurs, nos documents soulignent un fait très précis. Le pape Grégoire le Grand, à la fin du VIe siècle, a écrit à ses missionnaires.
Et que leur a-t-il dit?
Il leur a explicitement conseillé de ne surtout pas détruire les sanctuaires païens. Il leur a dit de les purifier et d'y placer des autels chrétiens.
Ah oui, c'est vraiment une intégration en douceur.
C'est un processus d'absorption. La figure de Marie a lentement intégré les attributs de ses anciennes déesses. Les populations locales ont continué à venir aux mêmes sources, dans les mêmes grottes, pour demander la pluie, la fertilité, la protection.
Sauf que le nom sur l'autel avait changé.
Exactement. Le nom a changé. Cependant, l'inconscient collectif, lui, a exigé de conserver la couleur de cette puissance tellurique.
Le noir de la terre féconde.
Une religion de la nature et la nouvelle religion du salut spirituel.
C'est quand même vertigineux de penser que, quand on regarde une statue en bois dans une petite église française ou espagnole aujourd'hui, on croise en réalité le regard lointain d'une déesse égyptienne ou grecque.
C'est vertigineux, oui. Le temps s'efface.
Mais ça soulève un autre point de nos documents qui m'a personnellement beaucoup interpellé. C'est le fossé immense, mais vraiment immense, entre la symbolique antique et notre perception actuelle de la couleur noire.
Un fossé énorme, en effet.
Je dois admettre une certaine perplexité face à notre époque sur ce point. Aujourd'hui, l'obscurité, le noir, le sombre, c'est presque exclusivement associé à l'angoisse, non?
Totalement. À la peur, à l'inconnu.
C'est le vide, c'est la mort. C'est le monstre qui se cache sous le lit quand on est enfant. On a développé une véritable phobie du noir.
Une phobie qui s'est traduite concrètement par notre besoin compulsif d'éclairer nos villes 24 heures sur 24.
Oui, les lampadaires partout, les enseignes lumineuses.
Nous voulons littéralement dissoudre la nuit.
Pour imager ça, la modernité me fait penser à l'utilisation d'un écran de smartphone, vous savez?
Ah oui, l'écran qui aveugle.
C'est ça. Le smartphone réglé sur la luminosité maximale, en plein visage, au beau milieu de la nuit dans votre lit.
C'est violent.
C'est rassurant d'un côté, parce qu'on voit absolument tout en haute définition. La lumière crue ne cache aucun secret. Mais au final, ça éblouit, c'est super agressif et ça fatigue énormément l'esprit.
C'est une excellente métaphore de notre rapport au savoir aujourd'hui.
Alors que l'approche ancienne de l'obscurité, telle qu'elle est décrite dans nos sources, ça me fait penser à tout autre chose. Ça me fait penser au moment où l'on ferme les yeux pour écouter profondément un morceau de musique qu'on adore.
On coupe l'image pour privilégier le son.
Voilà. On coupe volontairement la clarté visuelle, qui est trop distrayante, pour amplifier un autre sens. C'est comme si, pour eux, le noir ne cachait pas les choses, mais révélait autre chose, une autre fréquence.
Cette différence entre l'écran qui sature et les yeux clos qui intériorisent, ça illustre parfaitement le cœur de la théologie mystique antique dont parlent nos textes.
Ah oui.
Nos sources s'attardent longuement sur un texte biblique très célèbre et central ici, le Cantique des Cantiques.
Un poème très sensuel d'ailleurs.
Oui, et il y a cette fameuse déclaration de la bien-aimée qui dit « Je suis noire et je suis belle ». En latin, « Nigra sum sed formosa ».
Et comment ils interprétaient ça, les théologiens de l'époque ?
Dans la pensée spirituelle de ces siècles-là, notamment chez des penseurs comme Grégoire de Nice, on a développé le concept de la ténèbre divine.
La ténèbre divine ? Ça sonne presque comme un oxymore pour nous. Pour des esprits modernes habitués à associer Dieu exclusivement à la lumière, aux nuages blancs, au soleil absolu.
Et c'est tout le paradoxe. L'idée de Grégoire de Nice, c'est que la lumière représente ce que notre intellect peut comprendre. Ce qui est mesurable, ce qui est rationnel, ce qu'on peut classer dans des cases.
Le concret en somme.
Voilà. Mais le divin, l'infini, l'amour véritable ou le sacré pur, ben, par définition, ça dépasse infiniment les capacités de notre petit cerveau humain.
Ça fait disjoncter le système.
Exactement. Quand l'intellect atteint sa limite absolue, quand il ne peut plus rien mesurer, il entre dans l'obscurité. Donc le noir de la Vierge n'est pas du tout l'absence de lumière, comme un trou noir cosmique qui avale tout.
C'est quoi alors ?
C'est une densité insoutenable de mystère. C'est la couleur de ce qui est beaucoup trop profond pour être expliqué par des mots simples.
J'aime beaucoup cette idée de densité.
Elle incarne cette part de l'expérience humaine qui exige qu'on lâche prise. Qu'on lâche prise sur la raison pour accepter de simplement ressentir les choses.
Et d'ailleurs, c'est cette notion précise de lâcher prise et d'entrer dans l'obscurité qui nous fait basculer vers la toute dernière grande thématique de nos sources.
La psychologie.
Exactement, la psychologie clinique. Et c'est peut-être l'aspect le plus surprenant de notre exploration d'aujourd'hui.
Ça surprend toujours, oui.
Parce que quand on imagine une figure maternelle religieuse, Marie, on s'attend généralement à une image de confort, une présence douce, sucrée.
Apaisante.
Presque maternelle au sens d'une couverture bien chaude qu'on nous met sur les épaules un soir d'hiver. Mais les textes de psychologie qu'on étudie décrivent la Vierge noire de manière radicalement différente, n'est-ce pas ?
Radical, c'est le mot. Elle n'est pas là pour nous bercer d'illusions ou nous faire des câlins.
Elle est la figure des passages rudes, des crises profondes, du deuil, de ce que certains poètes et mystiques appellent la nuit noire de l'âme.
C'est le moment précis où le sol se dérobe sous nos pieds.
Quand plus rien n'a de sens.
Oui, quand la vie perd tout son sens et que nos belles certitudes lumineuses s'effondrent d'un seul coup.
Et c'est précisément là que Carl Jung entre en scène dans nos documents. Alors, question qu'on peut légitimement se poser, que vient faire l'un des pères fondateurs de la psychanalyse et de la psychiatrie moderne face à des statues en bois du XIe siècle ?
C'est vrai que le lien ne semble pas évident au premier abord.
Jung voyait dans la Vierge noire bien plus qu'une simple curiosité folklorique. Il l'identifiait carrément comme un archétype psychologique majeur. Un archétype lié à ce qu'il nommait le processus d'individuation.
Tout à fait.
Alors, j'aimerais bien qu'on s'arrête là-dessus un instant, parce que le jargon psychanalytique, bon, ça peut être un peu dense pour tout le monde.
Je comprends, ça peut faire peur.
Comment on peut expliquer ce concept d'individuation très simplement, et quel est le rôle de cette figure sombre dans tout ce processus ?
Alors, le processus d'individuation chez Jung, pour l'expliquer de manière très concrète, c'est le chemin de croissance psychologique. C'est ce qui mène à un être humain de l'enfance à devenir une personne vraiment complète, entière et authentique.
Devenir soi-même, en gros.
Voilà. Le problème, c'est que dans notre éducation et même dans notre vie sociale de tous les jours, on nous apprend à ne montrer qu'une seule face de nous-mêmes.
La face lumineuse.
La face lumineuse, oui. On doit être poli, on doit être productif au travail, joyeux, rationnel.
Ne pas faire de vagues.
Sauf qu'on a tous des angoisses, des hontes, des pulsions un peu inavouables, des deuils qu'on n'a pas digérés. Et tout ça, on le refoule dans ce que Jung appelle l'ombre.
L'ombre avec un grand O.
Oui, on cache tout ça dans la cave de notre esprit. Dans l'obscurité.
On fait le ménage vite fait et on cache la poussière sous le tapis de la conscience en espérant que personne ne soulève le tapis.
Exactement ça, Sam. Sauf que Jung affirme qu'on ne peut absolument pas devenir un être psychologiquement sain et complet si l'on passe sa vie entière à fuir la moitié de soi-même.
C'est épuisant de fuir en plus.
Très épuisant. Et tôt ou tard, souvent lors d'une fameuse crise de milieu de vie, d'un deuil grave ou d'un effondrement personnel,
le tapis craque.
Et cette ombre remonte à la surface parfois violemment. La Vierge Noire intervient ici dans sa théorie. Elle est la représentation archétypale de cette descente obligatoire dans la cave.
Elle nous oblige à y aller.
Elle symbolise cette sagesse très ancienne, très profonde, qui nous dit en substance « Pour guérir, tu ne dois pas fuir vers une lumière artificielle. Tu dois descendre dans ta propre nuit intérieure et regarder tes démons en face. »
C'est un peu la compagne des traversées souterraines de la psyché.
C'est une très belle façon de le dire.
Ça me donne envie de reprendre cette réflexion avec une image marine. Vous savez, quand on traverse la tempête de l'existence, quand tout va mal au niveau personnel, on a ce réflexe naturel de chercher une bouée de sauvetage.
C'est instinctif, on veut survivre.
On espère qu'une force extérieure, un ami, une thérapie, la religion, viendra nous attraper par le col pour nous tirer d'un coup hors des vagues, vers la surface, pour qu'on retrouve le grand soleil.
Le sauvetage magique.
Voilà. Mais ce que l'approche jungienne et nos sources nous disent aujourd'hui, c'est que la Vierge Noire n'est surtout pas une bouée de sauvetage. C'est une ancre.
Oh, la nuance est fondamentale ici.
Oui, parce que l'ancre, elle ne vous sort pas de la tempête. Elle ne vous ramène pas magiquement à la surface sous un beau ciel bleu sans nuages.
Surtout pas, non.
Elle vous maintient dans les profondeurs, dans l'eau sombre, glaciale, en plein milieu du chaos.
Mais elle vous stabilise.
C'est grâce à elle que vous ne dérivez pas au hasard des courants, et surtout que vous ne vous fracassez pas contre les récifs.
Oui.
Elle offre la stabilité nécessaire pour survivre à la nuit, et on attend juste que les vents contraires s'épuisent d'eux-mêmes. Je trouve ça intellectuellement brillant, franchement, qu'un scientifique du XXe siècle ait pu capter cette dynamique psychologique intime juste en observant les dévotions populaires de paysans autour de statues en bois.
C'est le génie de Jung. Ce qu'il avait compris, et ce que ces objets anciens incarnent en silence depuis des siècles, c'est que la vraie résilience nécessite d'accepter la totalité de notre expérience, le bon comme le mauvais.
Sans rien rejeter.
L'archétype de la Vierge Noire, au fond, nous enseigne que c'est souvent dans le noir de la Terre, dans le silence de nos pires épreuves intérieures, que la transformation silencieuse s'opère.
Comme la graine dont on parlait tout à l'heure.
C'est là que la graine germe, c'est là qu'elle prend sa force. Essayer d'esquiver cette étape sombre, vouloir rester en surface tout le temps, c'est tout simplement refuser de grandir.
C'est un véritable changement de perspective pour nous. Et si on retrace un peu le fil de notre exploration aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, on voit vraiment comment tous ces éléments s'emboîtent parfaitement.
C'est un voyage assez complet.
Nous sommes partis d'un constat presque trivial, des statues noircies dans des vieilles églises européennes. Et on se disait, bon, c'est peut-être juste l'effet de la fumée des cierges, le mauvais entretien.
La piste matérielle qu'on a vite écartée.
Ensuite, nous avons compris que cette obscurité était en réalité complètement intentionnelle, qu'elle agissait comme un pont direct vers les anciennes déesses de la Terre antique, comme Isis ou Déméter.
Et qu'elle préservait ce besoin viscéral de se lier à la matrice originelle, sombre et fertile.
Exactement. Après, nous avons vu que cette couleur noire, loin d'être un vide effrayant, comme on l'imagine aujourd'hui, ça représentait pour les anciens la densité du divin. Le mystère intouchable, la ténèbre divine.
Ce qui dépasse l'intellect.
Pour finalement réaliser, avec la psychologie moderne et avec Jung, que ce grand mystère cosmique, eh ben, c'est aussi le nôtre, à l'intérieur. C'est une invitation, dure mais indispensable, à affronter nos propres zones d'ombre pour atteindre une vraie complétude humaine.
C'est un très beau résumé. Ce qui ressort de tous ces textes, finalement, c'est que la Vierge Noire n'est pas du tout là pour nous faire la morale, ni pour fournir des réponses préfabriquées à nos angoisses.
Elle écoute, c'est ça.
Elle offre un espace silencieux, un espace de confrontation et de réconciliation avec tout ce qui, en nous et dans le monde, échappe à la lumière rassurante de la rationalité pure.
Eh bien, ça donne vraiment à réfléchir. Et pour conclure notre plongée dans ces sources, je crois que vous vouliez partager une dernière pensée, un peu plus provocatrice peut-être, qui découle de tout ça.
Oui, tout à fait. Cette idée d'un espace silencieux où la vulnérabilité est permise, ça soulève, à mon sens, une question assez critique pour nous, aujourd'hui, au XXIe siècle.
Je vous écoute.
Nous vivons dans une civilisation qui est obsédée par la clarté immédiate, la transparence absolue. On exige l'exhibition permanente de nos vies sous une lumière artificielle. Les réseaux sociaux, l'information en continu, une lumière qui ne tolère absolument aucune part d'ombre.
C'est vrai, tout doit être expliqué, visible, justifié.
On veut des explications rapides, on cherche des solutions algorithmiques pour chaque douleur ou chaque problème.
Le fameux tuto pour aller mieux en 5 minutes.
Voilà. Mais en rejetant culturellement et viscéralement l'obscurité, le silence et l'inconnu, est-ce que nous ne nous sommes pas rendus, paradoxalement, beaucoup plus fragiles face aux tragédies inévitables de l'existence ?
C'est une excellente question.
À force de vouloir chasser frénétiquement toutes les ombres de notre quotidien, il est très possible que nous ayons, par accident, verrouillé la seule porte d'accès au véritable processus de transformation humaine.
En refusant de descendre dans la cave.
C'est ça. Car en fin de compte, que ce soit dans les cryptes du Moyen-Âge ou dans les tréfonds de notre propre psyché, il semble que la lumière la plus authentique doive toujours pour naître puiser ses racines dans la nuit.